RFI.
Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique. Pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne. Vous choisissez de commenter le sujet de votre choix. Aujourd'hui, vous avez souhaité réagir à la décision du Mali de quitter le G5 Sahel. Vous reviendrez sur la chute du président zaïrois Mobutu il y a 25 ans. Vous nous direz ce que vous pensez de la COP15 désertification qui s'achève aujourd'hui à Abidjan. Vous nous parlerez également des tensions au Burkina Faso autour de l'orpaillage clandestin et du Togo qui rouvre ses frontières terrestres fermées depuis 2 ans. Pour cause de Covid. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. La guerre en Ukraine rebat les cartes en Europe. La Finlande et la Suède ont officiellement déposé leur candidature pour rejoindre l'OTAN, au grand dam de la Russie. Rodrigue, bonjour.
Oui, bonjour, Chantal Leroux.
Vous nous appelez de Libreville au Gabon. En ligne avec nous, Anissa El Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Bonjour.
Bonjour.
Rodrigue, on vous écoute. Vous avez la parole.
Oui, par rapport à la décision de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, je voudrais vous poser deux questions par rapport à ces deux candidatures. Ma première question est la suivante. Sergueï Lavrov a annoncé qu'il s'agissait d'une grave erreur et que les conséquences auraient une portée considérable. Je voudrais savoir quelle réponse peut-on attendre de la Russie face à ce processus d'adhésion.
Anissa El Jabri. On parlera de la deuxième question tout à l'heure, d'accord? Anissa El Jabri.
Ok.
Oui, alors en ce qui concerne la Russie en réalité, eh bien c'est avant tout ce que dit Vladimir Poutine qu'il faut écouter. La réponse de Vladimir Poutine, elle s'est faite ce lundi. Le président russe a déclaré qu'il accepterait l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN si, je cite, aucune arme n'est déployée dans ces pays. Et en ce cas, à ses yeux, je cite le président russe à nouveau, cela ne représente aucune menace directe pour la Russie. Alors évidemment, si cela arrivait, Vladimir Poutine a prévenu, le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînerait bien sûr une réponse. Et ça, eh bien, c'est l'ex-président, l'actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, qui l'avait déjà précisé il y a 8 jours, Dimitri Medvedev évoquait par exemple des déploiements d'infanterie et de systèmes antiaériens dans le nord-ouest de la Russie et des forces navales dans le golfe de la Finlande. Alors tout ça en Russie, ça reste perçu comme une réponse modérée et même pour certains surprenante. On parle quand même du doublement des frontières de la Russie avec l'OTAN. Mais selon plusieurs analystes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour le président russe, ce qui est en jeu avec l'OTAN, ce n'est pas en tout premier lieu un sujet militaire et stratégique, mais pour lui, c'est une problématique géopolitique historique. Autrement dit, que l'OTAN existe et même s'étende dans ce qui est considéré globalement comme le monde occidental, ça ne serait pas vraiment le sujet majeur. Ce qui préoccupe avant tout Vladimir Poutine, c'est ce qu'il considère comme le monde russe. Donc l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi la Géorgie, la Moldavie. Bon, il faut aussi avoir en tête que cette décision du 24 février, elle a été présentée récemment, au sein de l'administration présidentielle, comme reposant, je cite, principalement sur des principes moraux, nous n'abandonnons pas notre propre peuple, nous n'abandonnons pas les gens qui défendent leur droit d'être russes. Voilà, c'est ce qui avait été dit. Et puis je vous rappelle que cette adhésion potentielle de la Suède et de la Finlande, en réalité, ça fait bien longtemps qu'elle avait été envisagée à Moscou comme un scénario possible, d'où cette réaction.
Rodrigue, vous aviez une autre question pour Anissa.
Oui, et jusqu'à présent, quelles étaient les relations entre la Russie, la Finlande et la Suède?
Anissa.
Qui a toujours été la plus compliquée. Le pays a passé tout le 19e siècle sous la domination de la Russie et même jusqu'au début du siècle suivant. Il y a eu deux points d'orgue. Imaginez-vous qu'en 1900, un décret avait imposé le russe comme la langue officielle du Sénat et de l'administration en Finlande et qu'en 1901, l'armée finlandaise a été carrément intégrée à l'armée russe. Alors, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, d'ailleurs, c'est la révolution de 1917 qui avait marqué une rupture. La Finlande était devenue indépendante. Il y a eu une période un peu plus différente, 1940, l'Union soviétique finit par annexer certains territoires du pays. La motivation, c'était d'assurer la sécurité de ce qu'on appelait Leningrad à l'époque, qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui. La Finlande a essayé de récupérer ses territoires en s'associant à l'Allemagne nazie, mais elle les a rendus. Toute la période d'après, le pays a gardé son indépendance. Toute la guerre froide, la Finlande a été neutre et non alignée. Premier mouvement, c'est 1995 avec une entrée dans l'Union européenne. Le vrai début d'inflexion suivant, c'est 2014 avec l'annexion de la Crimée. La Finlande a commencé à multiplier les opérations, les missions de coopération avec l'OTAN. Mais jusqu'au 24 février, l'opinion publique finlandaise était très opposée à une entrée dans l'organisation atlantique.
Et en ce qui concerne la Suède et la Russie, Anissa ?
Bon, alors il y a un géographique qui est très important, c'est l'île suédoise de Gotland. Elle est à moins de 350-400 km de l'enclave russe de Kaliningrad. Ces dernières années, ça ne préoccupait pas vraiment Stockholm. Pour vous dire qu'en 2010, les dépenses militaires de la Suède avaient même atteint un plus bas historique, 1,2% du PIB. C'est important parce que la puissance militaire suédoise, elle s'était construite sur la peur de la Russie. Et tout ça, ça s'était effacé avec la chute de l'URSS. Alors, je vous parlais à l'instant de l'annexion de la Crimée, il y a eu des réactions en Finlande, et ben ça a réveillé en Suède la peur de Moscou. Il y a eu aussi un autre événement qui était la militarisation de Kaliningrad. Vous savez, c'est une enclave du territoire russe. En 2016, la Russie a modernisé ses bases militaires. La Russie y a déployé une batterie de missiles Iskander qui sont capables d'atteindre le territoire suédois. Alors la Suède était membre de l'Union européenne qui revendiquait sa neutralité depuis des décennies. Eh bien, depuis ces deux dates que je vous citais, Crimée et militarisation à Kaliningrad, eh bien, la Suède a à nouveau, en réaction, développé un programme de rénovation de toutes ses bases militaires. Elle a rétabli en 2017 le service militaire national 6 ans après son abolition.
Merci Anissa pour ces explications. Rodrigue, bonne journée à Libreville. On revient sur les manifestations anti-France au Tchad à l'appel de la coalition d'opposition Wakitama. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, Chantal Leroux.
Vous êtes étudiant tchadien et vous nous appelez de Nanterre. À mes côtés en studio, François Mazet du service Afrique de RFI. Bonjour François.
Bonjour Chantal, bonjour Abdoulaye.
Abdoulaye, on vous écoute.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI et à mes compatriotes tchadiens qui me suivent à travers le monde et plus précisément ceux du Tchad. Ces derniers temps, on observe plusieurs manifestations contre la présence de l'armée française au Tchad, entraînant des dégradations, des stations-service totales, un des symboles français. À ce sujet, il y a des questions. Quelles sont les origines de cette manifestation? Comment expliquer les sentiments anti-français qui se développent au Tchad?
François Mazet.
Alors, pour ce qui est de l'origine de la manifestation, Abdoulaye, on rappelle, c'était un appel de la plateforme Wakitama, qui regroupe partis politiques, syndicats, organisations de la société civile hostiles aux autorités, et ce, depuis la fin de l'ère Idriss Déby. Ces marches sont régulières depuis plus d'un an. Là, celle de samedi, elle s'inscrivait dans le cadre de toutes ces interrogations qui entourent le déroulement de la transition, avec les tractations de Doha qui s'étirent avec les politico-militaires. Le dialogue national inclusif repoussé une fois de plus. Wakitama a demandé donc, comme elle le fait depuis le début de la transition, plus d'inclusion dans le processus. La coalition dit par exemple que les autorités de transition ont un agenda caché pour conserver le pouvoir, d'où cette nouvelle marche qui était d'ailleurs autorisée avec un itinéraire défini par les autorités, donc pas de difficulté là-dessus. En revanche, en vue de doper la mobilisation, Wakitama a insisté cette fois sur la critique radicale de la France, ce qui a créé une dissension en son sein. Le parti Les Transformateurs de Succès Massra s'est désolidarisé. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que ce parti, c'est le plus structuré, le plus organisé de l'opposition. C'est lui aussi qui gérait les services d'ordre habituellement. Donc là, pas de service d'ordre et semble-t-il un encadrement policier plus léger. Conséquence, donc, ces débordements, en marge et après la fin de la manifestation, à l'écart de l'itinéraire. C'est pourquoi les leaders de Wakitama estiment qu'ils n'ont pas de responsabilité dans ces engagements. Ils blâment la police qui, selon eux, n'a rien fait. Au contraire, lui, le ministre de la Sécurité publique s'est justifié. Il a dit qu'en cas de casse, de vol, de toute autre infraction ou débordement, eh bien, les organisateurs devaient être tenus pour responsables devant les juridictions de la République. C'est ce qu'il avait déclaré juste après la marche.
Pour ce qui est du sentiment anti-français, il permet de mobiliser, mais est-ce qu'il se développe au Tchad?
Alors au Tchad, comme ailleurs, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il progresse ou tout simplement est-ce qu'il s'exprime davantage dans l'espace public via les réseaux sociaux avec aussi un coup de pouce de la part de certains acteurs extérieurs? C'est difficile de le savoir vraiment. Pour ce qui est du cas tchadien, je rappelle que l'an dernier, déjà lors des manifestations qui avaient suivi la mort d'Idriss Déby et l'arrivée au pouvoir de son fils, il y avait déjà de nombreuses récriminations vis-à-vis de la France, accusée d'avoir permis cette transmission familiale du pouvoir. La venue d'Emmanuel Macron aux obsèques de Déby père avait été mal perçue par une partie de l'opinion, donc ça avait déjà provoqué des réactions anti-françaises et des actes du même type que ceux qu'on a vus samedi. Aujourd'hui, on est sur la suite de cela. Hein. Paris coupable par association avec une junte militaire installée alors que certains Tchadiens ont l'impression que la transition n'avance pas. Donc pour ceux qui dénoncent cette marche de la transition, le levier de mobilisation anti-français, il est très efficace, surtout que évidemment, ils voient que ça fonctionne ailleurs, en Afrique et dans la sous-région.
Brièvement, François, est-ce que ces manifestations peuvent se poursuivre à l'avenir ?
Alors il y a déjà des discussions, il y a une date aussi le 28 mai donnée par Wakitama pour une prochaine manif, à voir s'il n'y aura pas des mouvements avant cela, d'autant que plusieurs leaders sont aux arrêts dans l'attente de leur jugement le 6 juin. J'ajoute que tant qu'il n'y aura pas de progrès dans la transition, cela donnera évidemment des raisons à la mobilisation. Surtout le contexte socio-économique au Tchad fournit de nombreux motifs de mécontentement, qu'il s'agisse de la vie chère ou du manque d'emploi pour les jeunes diplômés sans débouchés professionnels.
Merci François pour ces précisions. À bientôt sur l'antenne. Abdoulaye, merci de votre appel. Bonne journée à vous. Il y a une semaine, des milliers de Palestiniens participaient à Jérusalem aux funérailles de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Lorsque la police israélienne a chargé la foule et s'est mise à matraquer les porteurs du cercueil qui a failli tomber à terre, les images de ces violences ont fait le tour du monde et suscité une pluie de condamnations. Israël a annoncé l'ouverture d'une enquête. Shirin Abu Akleh avait été tuée 2 jours plus tôt à Jenin d'une balle dans la tête, Palestiniens et Israéliens se rejetant la responsabilité du tir. Salah, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Nouakchott en Mauritanie. Oriane Verdier du service international de RFI m'a rejointe en studio. Bonjour Oriane.
Bonjour.
Salah, qu'avez-vous envie de poser comme question à Oriane?
Alors, comme vous l'avez rappelé, le week-end dernier, des heurts ont eu lieu lors de l'enterrement de Shirin Abu Akleh entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. La journaliste a été tuée il y a plus d'une semaine par un tir d'origine inconnue. Alors, je voulais savoir, à ce stade des enquêtes, se dirige-t-on vers la piste d'un tir palestinien ou israélien? Et pourquoi les autorités palestiniennes ont refusé qu'une enquête conjointe soit menée avec Israël pour identifier les responsables?
Oriane, quel est le scénario le plus plausible, tir israélien ou palestinien?
Alors pour le moment, on se dirige clairement vers un tir israélien, même si bien sûr il faudra une enquête indépendante pour le confirmer ou non. Les autorités israéliennes elles-mêmes ont reconnu la possibilité que le tir vienne de leurs propres forces. Dans un premier temps, le Premier ministre Naftali Bennett avait mis en avant l'hypothèse hautement probable, selon lui, d'un tir palestinien, en s'appuyant sur la vidéo d'un Palestinien armé faisant feu dans le même quartier au même moment. Le site d'investigation Bellingcat a prouvé que cette vidéo avait été tournée bien trop loin de là où se trouvait la journaliste d'Al Jazeera. Ce même site a également analysé le son des vidéos tournées par les collègues de Shirin Abu Akleh. Cette analyse place l'auteur des tirs entre 177 et 185 mètres au sud de sa position. Bellingcat a retrouvé des vidéos sur les réseaux sociaux qui indiquent aussi l'arrivée peu de temps avant le drame de troupes israéliennes se trouvant à 190 et 250 mètres au sud de cette même position, donc à peu près au même endroit.
Alors en reconnaissant la possibilité d'une balle israélienne, l'État hébreu a émis l'hypothèse d'une balle perdue.
Oui, alors qu'Al Jazeera, l'employeur de la victime, ainsi que ses collègues qui ont été témoins de la scène, ont tout de suite affirmé qu'elle avait été délibérément visée. Elle a été touchée sous l'oreille, à l'endroit où ni son casque ni son gilet presse ne la protégeaient. Tous les journalistes du groupe étaient en effet clairement identifiés presse. Ils ont ensuite expliqué s'être placés volontairement à découvert pour que les forces israéliennes les voient et ne leur tirent pas dessus par erreur. Si les vidéos tournées par ces derniers, sur les vidéos tournées par ces derniers, on voit une collègue aidée ensuite d'un jeune homme tenter d'atteindre le corps de Shirin Abu Akleh, mais sera visée plusieurs fois car les tirs continuent, des tirs qui ne sont pas fournis mais espacés, ce qui semble indiquer que l'auteur prenait le temps de viser sa cible. Cette même collègue a affirmé ensuite qu'il n'y avait pas de combat autour d'eux et qu'il se savait visé directement. Le producteur d'Al Jazeera, Ali Al-Samoudi, a d'ailleurs lui aussi été touché par une balle sans gravité. De son côté, l'armée continue de soutenir que la journaliste se trouvait au milieu de combats actifs et qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'origine de la balle. Le quotidien israélien Haaretz a d'ailleurs affirmé hier que la police militaire avait pris la décision de ne pas ouvrir une enquête, la jugeant infondée.
Pourquoi les autorités palestiniennes ont-elles refusé une enquête conjointe avec Israël ?
Elles n'ont clairement pas confiance en fait dans l'État hébreu dont les enquêtes semblent systématiquement écarter la responsabilité d'Israël ou tout simplement n'avancent pas. La Fédération internationale des journalistes et l'ONG Reporters sans frontières ont eux aussi refusé l'association d'Israël et des États-Unis dans cette enquête, même si Shirin Abu Akleh était américano-palestinienne. Alors l'autorité palestinienne a donc lancé sa propre enquête et dit vouloir confier les preuves récoltées à la Cour pénale internationale.
Merci beaucoup. Yann Verdier. Salah, j'espère que vous êtes satisfaite. Bonne journée à Nouakchott. En France, on connaîtra cet après-midi la composition du nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a choisi lundi dernier l'ex-ministre des Transports pour remplacer Jean Castex au poste de Premier ministre. Elisabeth Borne sera responsable à Matignon de la planification écologique. Mahamadou, bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Niamey au Niger. À mes côtés en studio, oui. Julien Chavanne, chef adjoint du service politique du RFI. Bonjour.
Bonjour.
Mahamadou, quelle est votre question ?
Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre par Emmanuel Macron. On s'est dit la question, le président veut prioriser l'écologie pour son deuxième mandat. Ma question, c'est de savoir comment la nouvelle Premier ministre compte-t-elle relever les défis ?
Julien Chavanne.
Ah bah alors clairement, hein, c'est la priorité numéro un fixée sur la feuille de route de la nouvelle Première ministre. Emmanuel Macron l'a dit, hein, c'est dans sa fiche de poste. Elisabeth Borne sera d'ailleurs épaulée par deux lieutenants, un ministre de la transition énergétique et un autre pour la planification territoriale. Dès son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne s'est engagée à agir plus fort, plus vite sur l'écologie. Elle-même connaît un peu le sujet. Elle a été ministre des Transports pendant 2 ans et puis de la transition écologique pendant 1 an.
Quel a été son bilan ?
Alors c'est mitigé. On va d'abord regarder les bons points. Les aides publiques en faveur des mobilités bas carbone et les dépenses vertes ont augmenté. Plus emblématique, elle a mis fin à 2 grands projets controversés. Europa City, un vaste complexe de loisirs, d'hôtels dans le Val d'Oise, abandonné. Et puis elle a signé l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Et les mauvais points ?
Les objectifs de baisse des émissions de CO2 n'ont pas été atteints. En juillet 2020, le Conseil d'État a donné un carton jaune au gouvernement en constatant qu'il n'avait toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l'air dans 8 zones en France.
Alors voilà pour le passif, Julien. On attend maintenant la formation du nouveau gouvernement et l'on n'a jamais été aussi proche de connaître le casting.
Oui, je peux vous dire que ça bouillonne dans les services politiques français en ce moment. Ça fait près d'un mois que les journées sont interminables dans les ministères, mais aussi dans les rédactions. Donc on saura cet après-midi qui va composer ce premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Et évidemment, sur le terrain de l'écologie, ça va compter. On va voir qui sera nommé au poste clé sur la transition écologique. Est-ce qu'il y aura des poids lourds politiques ou alors de grandes figures de la société civile ? Le profil des nommés donnera le signal. Est-ce que Emmanuel Macron va vraiment se donner les moyens de tenir ses promesses électorales ?
Est-ce que Elisabeth Borne, Julien Chavanne, a la fibre verte ?
Eh bien, donc, elle est passée par deux ministères qui ont trait à l'écologie. Elle a travaillé avec Ségolène Royal. Mais c'est vrai que quand on regarde son parcours, c'est plutôt un parcours de techno. Elle a fait polytechnique, elle a beaucoup travaillé dans des cabinets. Elle a aussi dirigé la RATP, les transports parisiens. Ce n'est pas un profil flamboyant comme on l'a connu avec Nicolas Hulot, mais clairement, son parcours dénote aussi un engagement écologique. Et on va voir ce que ça va mettre en place lors de ces premiers mois et qui va l'encadrer pour mener cette planification écologique.
Et est-ce qu'elle a la poigne pour s'imposer face au ministère des Finances et au ministère de l'Agriculture qui souvent ont freiné les réformes concernant l'écologie?
Eh bien alors là, il faut regarder du côté de l'Élysée. C'est Emmanuel Macron qui tranche dans ce cas-là. Donc c'est lui vraiment qui va devoir trancher entre Bercy et Matignon sur l'écologie.
Merci beaucoup Julien Chavannes, Mamadou. Bonne journée à Niamey.